VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson au sommaire ce 7 août 2015.
Tremblement de terre de magnitude 5,6 dans l'est de la RDC cette nuit. Les secousses ont été ressenties jusqu'à Bujumbura et Kigali et dans le sud de l'Ouganda.
Conakry répond aux accusations de Human Rights Watch sur les violences policières.
Cela a suscité et a justifié cette fameuse réponse des services de sécurité volontaire des forces républicaines.
Damantang Albert Camara, porte-parole du gouvernement guinéen.
L'opposition congolaise en rang de bataille pour barrer la route à Joseph Kabila en 2016.
Nous aurons un meeting populaire le 15 septembre, une date symbolique, c'est le jour de la rentrée parlementaire.
Martin Fayoulou, coordonnateur des forces acquises au changement.
La justice ougandaise renforce les droits économiques des femmes en matière de divorce.
Et avant la Minute Éco et les sports, le journal.
Trois secousses sismiques ont eu lieu dans l'est de la RDC vers 3h25 du matin, heure locale. Selon le US Geological Survey, l'épicentre se situait à 34 km au nord-est de Kabare, dans le sud Kivu, avec une magnitude de 5,6 entre Bukavu et Goma. Des secousses ont été ressenties à Bujumbura, Kigali et en Ouganda. À Bukavu et Goma, les habitants surpris en plein sommeil sont sortis de leur maison. À 5h du matin, de nombreuses familles étaient encore groupés le long des routes de la capitale du Sud Kivu, selon notre correspondant à Bukavu, Ernest Mouero.
Il était 3h passées de 27 minutes lorsqu'ici à Bukavu, des secousses en termes et des tremblements de terre se sont fait sentir avec acuité. Tout était en mouvement et aussitôt des familles entières se sont précipitées dehors, ça et là, des enfants encore ensommeillés sont accrochés à leurs parents sans trop bien comprendre ce qui se passe. Aussitôt après, il y a eu une deuxième et troisième réplique. Des hommes et des femmes visiblement apeurés s'accrochent au téléphone pour appeler les leurs afin de comprendre s'il n'y a rien de cassé. Nous avons fait quelques tours dans le centre-ville de Bukavu pour identifier des cas de dégâts, mais on n'en a pas trouvé jusqu'ici. À certains endroits, des familles réunies dehors prient à tue-tête, et à d'autres, les gens se réfugient dans leurs véhicules pour ne pas attraper le froid. Contacté, le coordonnateur provincial de la cellule chargée des catastrophes naturelles, le docteur Papi Kapapa, nous a signifié qu'à cet instant, il est difficile de donner la magnitude de ce séisme ni l'endroit d'où il est parti. Une heure après le séisme, la plupart des familles se sont décidés à retourner dans leur maison. De Bukavu, Ernest Mouero pour La Voix de l'Amérique.
À Kinshasa, procès en appel de l'assassinat de l'activiste Floribert Chebeya et de son associé Fidel Bazana en 2010, avec la fin hier des plaidoiries des parties civiles qui exigent des dommages et intérêts pour les familles des victimes. Le réquisitoire est attendu lundi. Ensuite interviendra la défense. Maître Elim Bikayi Mwamba, un des avocats des parties civiles.
Les avocats des parties civiles que nous sommes avons fourni cet effort-là pour d'abord démontrer les préjudices que les parties civiles ont subis du fait de la commission de ces infractions, à savoir l'association des malfaiteurs et les doubles assassinats. Il y a mon confrère Cécep Moukancien qui a démontré les préjudices subis par les personnes physiques, complétés par Maître Kabengela. À la fin de leur plaidoirie, ils ont chiffré ces préjudices tant moral, matériel, et il y a même les préjudices sexuels qui ont été démontrés. Et ces préjudices ont été chiffrés de façon partielle. On n'a pas eu le temps matériel de tout chiffrer. Moi, je suis intervenu sur les préjudices subis par l'une des personnes morales, à savoir Renadoc. J'ai chiffré ça à 550 000 dollars pour les préjudices moraux, 550 000 dollars pour les préjudices matériels. Et c'est par province. À l'époque où j'ai plaidé la cause au premier degré, on n'avait que 11 provinces. La haute cour devait faire cet exercice-là parce que dans chaque province, la plateforme Renadoc est représentée. Et chaque représentation a subi ces deux préjudices et chaque représentation devra être indemnisée. Personne, alors j'ai dit personne, ne pourra remplacer Chebeya dans les organisations des droits de l'homme en République démocratique du Congo, en Afrique et partout dans le monde.
Maître Eli Mbiaki Mwamba à Kinshasa, au micro de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma fait l'objet d'une plainte en justice au sujet de la rénovation controversée de sa résidence privée. Le plaignant n'est autre que le Parti des combattants pour la liberté économique de l'opposant Julius Malema. Des détails avec Eddy Sango.
C'est au lendemain de l'abandon des charges qui pesaient contre les jeunes tribuns populistes que son parti, les FFF, a à son tour saisi la justice. Il veut contraindre le président Jacob Zuma à rembourser les fonds publics dépensés dans la réfection de sa résidence privée. Les partis disent réagir au refus de M. Zuma de donner les détails sur le financement de ses travaux. Nous l'avons amené devant la Cour constitutionnelle. Seule une Cour de justice peut l'obliger à rendre l'argent, a déclaré jeudi M. Malema à la presse à l'extérieur du Parlement, accusant au passage M. Zuma de mépriser les institutions de l'État. Julius Malema a précisé que son parti avait déposé la requête jeudi et que M. Zuma et le Parlement en avaient été informés. Devant le Parlement jeudi, M. Zuma a expliqué qu'il jugeait prématuré de répondre aux FFF. « Je m'exprimerai plus dans ces débats une fois que toutes les procédures devant le Parlement auront été conclues », a-t-il dit.
Deux pasteurs sud-soudanais ont été empêchés par les autorités de Khartoum de quitter le territoire après leur remise en liberté par la justice soudanaise. Bouda Rachid nous en dit plus.
Le pasteur Yat Michael et Peter Yen étaient sur le point de prendre leur vol pour une destination étrangère quand ils ont été empêchés par les autorités du pays, prétextant qu'ils font l'objet d'une interdiction de quitter le territoire soudanais. Arrêtés fin 2014 et début 2015 pendant leur visite à Khartoum, la capitale soudanaise, ils étaient visés par 8 chefs d'accusation, dont incitation à la haine ethnique, espionnage et troubles à l'ordre public. Un juge soudanais a reconnu mercredi Yat Michael coupable de troubles à l'ordre public et Peter Yen d'avoir créé et géré une organisation criminelle. Ces deux membres de l'Église évangélique presbytérienne du Soudan du Sud ont été condamnés par le tribunal soudanais, puis remis en liberté, leur détention provisoire ayant couvert la totalité de leur peine. La population sud-soudanaise est majoritairement chrétienne ou animiste, alors que celle du Soudan est majoritairement musulmane.
En Ouganda, la justice a renforcé la protection des droits des femmes au plan économique en matière de divorce. Un verdict publié jeudi interdit aux hommes divorcés de réclamer la dot versée à la famille de leurs épouses et rend ainsi moins difficile pour les femmes l'abandon d'une relation abusive. Chérubin Dorsil.
La Cour suprême de l'Ouganda n'a pas dit que le paiement de la dot était constitutionnel, mais elle affirme que le concept de remboursement après le divorce doit être proscrit puisqu'elle ignore la contribution des femmes à leur mariage et traite l'union conjugale comme une transaction commerciale. La dot est une pratique courante en Ouganda comme dans d'autres pays africains. Mais si l'épouse sollicite un divorce, l'homme et ses parents exigent le remboursement, d'habitude en bétail, de ce qu'ils avaient versé à la famille de la femme au moment du mariage. Depuis des années, les organisations de défense des droits humains appellent à l'abolition de cette pratique, arguant qu'elle contraint les femmes victimes d'abus et de violences dans leur foyer à ne pas se séparer de leur conjoint. Dans cette décision, les juges de la Cour suprême ont voulu préserver la dot comme partie intégrante du mariage traditionnel, tout en interdisant la réclamation du remboursement, a expliqué Ida Nabunia, porte-parole du groupe Mifumi Project, qui avait saisi le tribunal. Cela implique que les épouses maltraitées par leur mari ne seront plus forcées de rester quand elles n'ont pas de quoi remettre la dot versée à leurs parents.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les forces américaines ont remis aux autorités irakiennes la veuve d'un haut dirigeant du groupe État islamique. Oum Sayyaf était l'épouse d'Abu Sayyaf, tuée par les forces spéciales américaines en Syrie en mai dernier. Elle a été transférée dans la région autonome du Kurdistan irakien. Le Pentagone dit qu'elle est également un membre du groupe État islamique.
Une consultante en développement social française retenue en otage au Yémen depuis février a été libérée et sera bientôt de retour chez elle. Un communiqué du bureau du président français François Hollande dit qu'il partage la joie de la famille d'Isabelle Prim et que son gouvernement a fourni tous les efforts possibles pour atteindre cet heureux dénouement.
Selon les autorités afghanes, au moins 8 personnes ont été tuées et plus de 100 autres ont été blessées dans une puissante explosion qui a frappé le centre de Kaboul ce vendredi matin. La bombe a explosé près d'un bâtiment du gouvernement. Selon des sources locales, plusieurs femmes et enfants figurent parmi les victimes.
Vol MH370 de Malaysia Airlines, la France déploie aujourd'hui de nouveaux moyens aériens et maritimes au large de l'île de la Réunion pour détecter la présence éventuelle de nouveaux débris après la découverte d'un fragment d'aile sur une plage. Selon les ministères de la Défense et des Transports, un aéronef doit survoler la zone ce matin. Des patrouilles à pied, missions d'hélicoptères de recherche et de brigades nautiques seront également menées dans la journée.
L'actualité en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Écho qui vous est présentée ce matin par Bagassi Koura.
En Égypte, le nouveau canal de Suez a été inauguré hier en grande pompe par le président Abdel Fattah al-Sissi. Avec cette nouvelle voie longue de 72 km, l'Égypte prévoit de doubler le trafic à l'horizon 2023, passant de 49 navires par jour à 97. La nouvelle voie devrait faire passer les revenus du canal de 5,3 milliards de dollars attendus en 2015 à 13,2 milliards de dollars en 2017. C'est aujourd'hui que prend fin à Kinshasa le 6e colloque du secteur minier congolais. Les participants ont plaidé pour une meilleure gestion de l'extraction des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Mabolia Yenga est le coordonnateur national du projet d'appui du ministère des Mines.
Les retombées du secteur minier, ce n'est pas encore au maximum de ce que nous attendons, mais je crois qu'il y a quand même une certaine évidence que le secteur minier contribue de plus en plus au PIB. Hier, nous étions à 900 000 tonnes l'année passée. Aujourd'hui, nous allons vous dire que nous avons plus de 1 million. Donc, il y a quand même une effectivité. Hier, nous produisions à peine 200 ou 300 kilos d'or. Mais aujourd'hui, nous allons parler déjà de 21 tonnes d'or. Donc, nous allons de manière crescendo vers l'atteinte des résultats qui nous ont été fixés par les autorités du gouvernement.
Au Zimbabwe, les vendeuses de vêtements lancent un appel au gouvernement pour lever l'interdiction sur la vente de vêtements de seconde main. Ces vendeuses disent que cette interdiction aura une incidence sur leurs moyens de subsistance. Les femmes députées font également pression sur le gouvernement pour que cette interdiction soit limitée aux sous-vêtements pour des raisons de santé.
Merci Bagassi Koura pour la Minute Écho. Et à présent, les sports présentés par Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nathalie.
Alors la CAF n'a toujours pas dit qui elle soutenait pour la présidence de la FIFA.
Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a refusé à l'unanimité d'accorder son soutien au président de la Fédération du Libéria, Moussa Bilitti, candidat à la présidence de la FIFA. La CAF a précisé qu'afin de préserver les intérêts et l'unité du football africain, elle se donnera le temps nécessaire pour étudier toutes les options et se déterminer. Un comité exécutif de la CAF se réunira fin octobre au lendemain de la clôture des candidatures pour la présidence de la FIFA. L'élection aura lieu le 26 février prochain. Le président de l'UEFA, Michel Platini, est le grand favori pour succéder à Sepp Blatter, président depuis 1998 de la FIFA, empêtré dans un scandale de corruption qui frappe l'institution.
Le mercato continue pour les clubs européens de football.
Le Paris Saint-Germain s'en remet à Angel Di Maria, qui a signé officiellement hier pour 4 saisons avec le club parisien. Le transfert de l'Argentin de 27 ans est estimé à 63 millions d'euros. L'attaquant camerounais Jacques Zoua, en provenance de Kayseri RC Espoir, a signé un contrat de 2 ans assorti d'une option supplémentaire avec le club du Gazélec d'Ajaccio, promu en Ligue 1 française. L'international camerounais a disputé 16 matchs de Ligue des Champions et 12 en Europa League. Sachez également que le grand espoir du football français Paul Pogba, qui s'annonçait comme la star du mercato cet été, il semble finalement en passe de rester à la Juventus de Turin. Paul Pogba a reçu le numéro 10, selon son entraîneur Massimiliano Allegri, lors d'une conférence de presse à Shanghai, où le club champion d'Italie et finaliste de la dernière Ligue des Champions dispute ce samedi la Super Coupe d'Italie contre la Lazio de Rome.
Une marche pour la bonne cause pour les coureurs kényans.
Des athlètes kényans ont achevé hier une marche de la paix. Longue de 836 km, elle visait à dénoncer les violences intercommunautaires. Les stars du marathon Wilson Kipsang et Tegla Lorupe, ainsi que des dizaines de marcheurs, ont passé la ligne d'arrivée dans la vallée du Rift du Kenya, où plus de 300 personnes ont été tuées au cours d'affrontements cette année.
En natation, les Américaines imbattables.
Les États-Unis ont conservé leur titre de champion du monde du relais 4 x 200 mètres nage libre dames en s'imposant en finale des mondiaux de natation à Kazan, en Russie. Les Américaines Missy Franklin, Leah Smith, Katie McLaughlin et Katie Ledecky, également championne olympique en titre, ont devancé l'Italie et la Chine.
Merci Nicolas pour la page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. En RDC, 161 opposants et membres de la société civile ont annoncé une série de manifestations pour exhorter le président Joseph Kabila à quitter le fauteuil présidentiel en 2016. Un meeting sera présidé le 15 septembre par Jean-Bertrand Ewanga. Accusé d'offense au chef de l'État, au gouvernement et au Parlement, il vient de purger 11 mois de prison. Le député avait été arrêté en septembre, quelques jours après une manifestation. Nicolas Pinois joint le porte-parole de ce groupe d'opposants, le professeur Kabila Kalele.
Parmi les actions politiques que l'opposition a programmées, l'opposition compte organiser, comme il y a deux ans, un grand meeting d'information. La fois passée, on l'avait organisé à la place Sainte-Thérèse à Ndili. Cette année, on compte le faire au même endroit. Sinon, on va changer, on ira dans une autre commune.
Est-ce que vous craignez des violences ?
En tout cas, il n'y aura pas de violence en ce qui nous concerne. Comme il y a deux ans, il n'y a pas eu de violence. Tout s'était très bien passé. L'hôtel de ville avait accepté. L'opposition avait discipliné ceux qui étaient venus. Ça s'était bien terminé, sauf qu'on a arrêté après ce rassemblement-là un de nôtres qui vient de sortir, M. Ewanga. De toutes les façons, nous savons que le pouvoir de Kinshasa n'accepte pas les manifestations de l'opposition, mais nous ne pouvons pas croiser les bras et le laisser faire tout ce qu'il veut faire, notamment le dossier du troisième mandat du président en exercice. Pour protester.
Finalement, est-ce que ça ne vous inquiète pas que le président Kabila n'ait pas clarifié ses intentions pour 2016?
Non, je ne pense pas qu'il faut attendre qu'il fasse une déclaration. On pose des actes. Tous ceux qui ont protesté contre un troisième mandat au Katanga, là, comme le gouverneur, comme le président de l'Assemblée, tous ceux qui ont levé la voix contre le troisième mandat, on voit qu'ils ont été arrêtés ou ils ont eu des ennuis. Par contre, les gens qui applaudissent le troisième mandat, nous voyons qu'ils sont promus. Et la campagne d'inauguration des œuvres à gauche, à droite, c'est une sorte de propagande en vue du troisième mandat.
L'opposant congolais Kabila Kalele. Ses membres de l'opposition et de la société civile se sont constitués en une plateforme intitulée « Dynamique pour l'unité d'action de l'opposition politique congolaise ». Eddy Issango a joint Martin Fayoulou, le coordonnateur des forces acquises au changement.
Nous commençons lundi prochain par une conférence de presse de notre cher camarade Jean-Bertrand Ewanga qui vient de purger un an de prison, donc emprisonné injustement par M. Kabila. Et après, nous avons la campagne sur l'enrôlement, donc la campagne qui s'intitule « L'enrôlement s'impose avant toute élection en RDC ». Et ainsi de suite, nous irons en convention, nous allons nous réunir, et d'abord, avant la réunion, nous aurons un meeting populaire le 15 septembre. Et le 15 septembre, c'est une date symbolique, c'est le jour de la rentrée parlementaire.
Qui sont parmi les signataires de cette déclaration que vous avez faite?
C'est toute l'opposition, la dynamique de l'opposition pour l'unité d'action. Là-dedans, vous avez toute l'opposition, sauf bien sûr les amis de l'IDPS qui ne sont pas encore rejoints. Plus que 116 partis, il y a les partis de l'opposition et il y a la société civile, les membres de la diaspora congolaise.
Vous parlez du départ du président Joseph Kabila qui n'a pas encore terminé son mandat. Lequel mandat doit se terminer au moment des élections de 2016?
Nous disons ceci tout simplement, que le 20 décembre 2016, le Congo aura un président élu qui va prêter serment. Donc, que M. Kabila se prépare. Nous ne faisons pas des révolutions pour dire, voilà, il part avant les 19 décembre 2016.
Le président Joseph Kabila n'a jamais dit qu'il ne partirait pas. Qu'est-ce qui vous dit qu'il essaie de briguer un troisième mandat?
Pourquoi alors il procède au démantèlement des provinces précipitamment? Pourquoi alors il tient mordicus à organiser les élections locales qui, aujourd'hui, si elles sont organisées, ce sera bâclé? Pourquoi il tient à avoir à tout prix la loi sur la répartition des sièges ou les annexes sur la répartition des sièges?
C'était Martin Fayoulou, coordonnateur des forces acquises au changement en RDC.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Dans un récent rapport, Human Rights Watch accuse les forces de sécurité guinéennes d'excès et de crimes commis sur des manifestants anti-gouvernementaux. Pour une réaction, Georges Léonard Sagnou a contacté Damantang Albert Camara, porte-parole du gouvernement guinéen.
C'est un rapport qui fait un constat que nous avons régulièrement fait depuis 2011, lorsque nous sommes arrivés et que nous avons vu l'état dans lequel les forces de sécurité dont nous avons hérité se trouvaient. Tout de suite, cela a suscité et a justifié cette fameuse réforme des services de sécurité pour en faire des forces républicaines et respectueuses d'une démocratie, d'un état de droit. Cela a commencé par l'armée et la gendarmerie. Et vous noterez que le rapport du Human Rights Watch, d'ailleurs, dédouane plus ou moins la gendarmerie et l'armée et met plutôt l'accent sur la police qui, effectivement, n'a pas eu encore accès à cette réforme. N'oubliez pas également que ce rapport fait état de l'extrême violence des manifestants. Tout ceci met en place un cocktail qui explique sans l'excuser les violences qui se déroulent et dont plusieurs personnes sont victimes. Et malheureusement, le gouvernement pour le moment se bat pour faire des personnes qui se la fait.
Puisque vous confirmez le contenu du dit rapport, alors quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour corriger cet état de fait?
Sans l'avoir confirmé, nous n'excluons absolument pas, par rapport à toutes les raisons que je viens de vous évoquer, qu'il y ait pu y avoir un usage excessif de la force. Ça, nous ne l'excluons pas. Ça a été une tradition à l'époque lorsque le béret rouge se chargeait de l'ordre public. Maintenant, ce n'est plus le cas, mais nous ne l'excluons pas. Et chaque fois, effectivement, des enquêtes sont ouvertes. Mais le premier élément, c'est d'abord la réforme. Et ça, nous l'avons commencé. Ce que je peux vous dire, c'est que si nous n'avions pas fait cette réforme-là, aujourd'hui, vous auriez encore les militaires qui se retrouveraient en train de gérer des manifestations. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous venons également d'adopter une loi qui gère les manifestations, qui encadre strictement l'utilisation des armes à feu avec des obligations de rapport, des obligations de proportionnalité. Donc tout ceci devrait nous permettre d'aller dans une dynamique beaucoup plus sécuritaire, mais également beaucoup plus respectueuse des droits de l'homme.
3 ans après les massacres de Jogota, quelle est la suite réservée à ce dossier?
Je crois qu'il est prématuré de parler de massacres suite à des actes graves, suite à ce qui s'est passé à Jogota. Il faut absolument que la lumière soit faite. Maintenant, je sais que la procédure judiciaire est ouverte. Je sais qu'aux dernières assises, il y a eu l'évocation de la situation de Jogota et aux dernières nouvelles, le ministre de la Justice a fait prendre des mesures pour qu'effectivement cette affaire la voie également la lumière à travers un procès.
Est-ce que vous pensez que des interpellations ont eu lieu dans ce cadre précis?
Je ne saurais vous le dire. Malheureusement, le ministre de la Justice, nous faisons très attention à ne pas interférer dans le fonctionnement de la justice.
C'était le porte-parole du gouvernement guinéen Damantang Albert Camara, joint à Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Retour ce matin sur le Yali 2015, le programme du président américain pour les jeunes leaders africains, qui s'est achevé par un sommet ce mercredi ici à Washington. Au micro de Bagassi Koura, une participante, Boussoura Talagay, qui travaille dans le domaine des déchets électroniques à Dakar, au Sénégal.
Effectivement, on vient de terminer 6 semaines de cours dans des universités américaines, suivies de 3 jours de sommet avec le président Obama et son administration. Ce qu'on peut retenir de ce programme, c'est qu'il est très riche en termes de formation. Moi, je suis dans le groupe business et entrepreneuriat, donc très riche en termes de formation en business, comment faire son business plan, comment trouver la bonne idée, comment la développer, comment trouver les bons collaborateurs et également comment faire du networking. Durant le sommet, donc, on a eu un discours du président Obama qui nous a vraiment remotivés à travailler pour nos pays et puis à développer notre leadership.
Qu'est-ce que vous faites au Sénégal?
Moi, je suis cofondatrice de CETIC. C'est une société qui travaille dans le recyclage des déchets électroniques. Donc, on récupère les déchets électroniques tels que les téléphones mobiles, les ordinateurs, mais également, on a les boxes de collecte de cartouches d'impression ou de piles. Donc, on les récupère au niveau de Dakar actuellement pour les faire recycler. On a un centre de démantèlement qui est basé à Dakar.
Et est-ce que vous avez trouvé des réponses à certaines de vos préoccupations dans vos activités ici?
Je dirais plutôt que j'ai trouvé des points qui peuvent m'aider à développer mon business. Quand je prends par exemple par rapport à l'université, on a quand même eu des profs qui, même s'ils n'avaient pas le background par rapport au business qu'on fait, nous ont beaucoup challengés. Nous ont permis en fait de nous poser les bonnes questions par rapport à notre business. Déjà, est-ce que c'est la bonne idée et est-ce qu'on a la bonne approche pour le faire? Après, j'ai également eu l'occasion de faire pas mal de visites de sites dans ce domaine-là, donc dans lequel en fait je peux facilement réseauter et puis collaborer avec des personnes ici qui pourront m'aider à développer mon idée en Afrique.
Donc on peut dire que vous êtes bien outillé alors?
Oui, tout à fait. Mon côté, je ne me plains pas.
Boussoura Talagueye, une participante au programme YALI à Washington.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici à Washington, la Commission sénatoriale des affaires étrangères se penche sur la manière dont a été conçu un rapport gouvernemental. Des officiels du département d'État se sont heurtés hier aux questions des parlementaires américains après les informations selon lesquelles le rapport annuel des États-Unis sur le trafic des êtres humains dans le monde a été ajusté pour se conformer à l'agenda international de l'administration Obama. Le point avec Michel Joseph.
Le trafic des êtres humains assujettit les populations vulnérables de plusieurs continents à un asservissement virtuel, un fléau que les États-Unis combattent en dénonçant publiquement les pays coupables. Le président de la Commission, le sénateur républicain Bob Corker. Quelque 27 millions d'êtres humains vivent dans des conditions d'esclavage moderne, dit-il. Son vis-à-vis démocrate, le sénateur Ben Cardin.
We have a moral imperative.
C'est un impératif moral pour nous de dénoncer ce trafic. Il s'agit de servitude et de travail forcé, il s'agit de trafic sexuel, il s'agit du financement d'activités criminelles. Dans le rapport de cette année sur le trafic des êtres humains, Cuba, qui a renoué ses liens diplomatiques avec les États-Unis cette année, et la Malaisie, qui fait partie du PTP, ou Partenariat Transpacifique, un pacte massif de libre-échange cher à l'administration Obama, se sont vus épargner les plus vives critiques du département d'État. De nouveau, le sénateur Bob Corker.
Many of us are concerned that the upgrading.
Nous sommes nombreux à nous préoccuper du fait que le classement plus favorable de la Malaisie concerne beaucoup plus le PTP que les soucis pour les personnes victimes de ce trafic. Réaction de la sous-secrétaire d'État américaine Sarah Seawall.
We still have enormous concerns about traffic in Malaysia.
Nous avons toujours des soucis énormes sur ce trafic en Malaisie, dit-elle. Selon le département d'État, la Malaisie a accéléré les enquêtes ainsi que la poursuite des trafiquants présumés.
The tier rankings,
les classements n'évaluent pas la gravité du problème du trafic des êtres humains dans un pays donné. Ils évaluent les efforts par son gouvernement pour s'attaquer à ces problèmes. Réaction du sénateur Cocker. Je ne pense pas que ceux qui, en Malaisie, ont vu les leurs vendus comme esclaves sexuels seraient très rassurés par ce que vous venez de dire. Le département d'État insiste sur l'intégrité de son rapport. De nouveau, la sous-secrétaire d'État, Sarah Seawall. Le secrétaire d'État John Kerry est responsable du rapport sur le trafic des êtres humains et personne ne peut douter de l'engagement de M. Kerry envers la cause de la lutte contre le trafic des êtres humains. Pour sa part, Ben Cardin, principal membre de la Commission sénatoriale des affaires étrangères, a dit que la loi faisant obligation de ce rapport pourrait être renforcée pour inclure un droit de regard du Congrès sur les ajustements faits chaque année sur le classement des pays concernés.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine, vos points de vue dans RM Show. Envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au plus 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, assistée par John Ellison. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Bon week-end à toutes et à tous.
cœur de l'info sur VOA Afrique.